Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion lorsque nous enregistrons cette émission. Nous sommes le mardi 14 mai 2024 et je suis, comme à chaque émission de l'Institut des Libertés, avec Charles Gave. Bonjour Charles.
Et bonjour.
Alors, je dois dire que cette semaine, l'actualité est pas incroyable. Voilà, il y a, comme d'habitude, hein, on sait quelques faits divers qui se passent, mais c'est pas forcément ce qui va beaucoup m'intéresser cette semaine. Et en fait, je voudrais parler d'un sujet assez général, mais qui a quand même son actualité, d'autant plus récemment, à savoir le front en Ukraine. Alors, ni vous ni moi ne sommes des spécialistes de l'étude militaire, mais enfin, il s'agit quand même de retranscrire les faits qui, eux, ont été quand même établis par des gens assez compétents, à savoir le fait que l'armée russe avance en ce moment, elle prend environ un village tous les deux jours, alors ce qui paraît peut-être pas si énorme comme ça, mais le front est quand même beaucoup plus avance de manière beaucoup plus rapide que depuis environ un an, à l'avantage de la Russie, hein, bien sûr. Sachant qu'on était à environ 2 km carrés par jour qui étaient pris sur le mois de mars, en moyenne, 4 fois moins lors des mois de 2023, en moyenne aussi. On passe à 4 km carrés par jour pour le mois d'avril et 7 km carrés par jour aujourd'hui, mi-mai à peu près. C'est pas, voilà, comme j'ai dit, c'est pas si énorme, mais c'est bien plus gros qu'auparavant. Donc vraiment là, il y a de la percée russe dans tous les sens. Alors on peut pas encore parler tout à fait de guerre dynamique, mais il semblerait qu'on sorte quand même de la guerre vraiment de position qu'on avait observée jusqu'ici. Très rapidement, même pas deux mois après le début du conflit. Alors cette avancée, elle se fait notamment dans la zone est-nord-est. C'est surtout là que ça pousse. Alors c'est assez compréhensible puisque le plan d'aide américain pour l'instant n'a pas encore produit ses effets. Et puis quand il le fera, je pense qu'il ne permettra sans doute pas de reprendre des positions perdues ou reperdues au passage, mais plutôt à garder éventuellement des positions tenues actuellement, ce qui est moins risqué, qui peut se faire un certain temps du moment que vous avez des hommes protégés et des munitions. Donc le but de l'aide américaine, bien sûr, elle n'est pas, de reprendre tous les terrains, elle est vraiment pour permettre à l'Ukraine éventuellement de résister, mais pas de conquérir. Et le but en réalité premier de cette aide, c'est en fait de subventionner indirectement leur industrie de guerre. L'intérêt des États-Unis n'est pas tellement à l'heure actuelle, je pense, de sauver l'Ukraine parce que ça coûterait trop cher. Et il faudrait, je pense, mettre des hommes sur place et ils n'y sont pas du tout ouverts. Mais leur intérêt, c'est plutôt de montrer qu'ils n'ont pas abandonné l'Ukraine afin que d'autres pays de l'OTAN ne se débinent pas et ne se détournent pas de l'organisation. Donc déjà, Charles, cette percée russe était-elle prévisible ?
Prévisible, vous savez, il y a toujours des gens qui avaient prévu ce genre de choses, oui. Ce qu'il y a de certain, d'après ce que j'ai pu lire, mais ce que j'ai lu, c'est ça, c'est que les positions que sont en train d'enlever les Russes n'ont pas du tout été fortifiées par les Ukrainiens pendant la dernière année ou la dernière année et demie. C'est-à-dire qu'il y avait toute une série du front. Il y a eu l'offensive ukrainienne de l'an dernier qui n'a pas fait grand-chose. Et pendant qu'ils faisaient cette offensive, ils auraient dû en quelque sorte renforcer leur défense profonde, comme on dit. Et ils ne l'ont pas fait. Donc aujourd'hui, les Russes rentrent un peu comme dans du beurre, puisqu'il n'y a pas de fortification, il n'y a pas de... Il n'y a pas de champ de mine, il n'y a pas de bunker, il n'y a rien, quoi. Donc ils rentrent assez facilement. Donc, les guerres de tranchées, les guerres statiques, durent parfois très longtemps, mais à partir du moment où il y a une des deux armées qui commence à s'écrouler, ça peut aller très très vite, quoi. C'est ça, on l'a vu dans la débâcle allemande en 1918, etc. Donc, la question c'est, est-ce que la débâcle, c'est une débâcle ou c'est une, ou c'est juste une percée à russe comme il y en a eu 25. On le saura assez vite si c'est la débâcle, parce que si c'est la débâcle, ça veut dire que les troupes qui ne se battent pas aujourd'hui, qui ne sont pas sous le feu, mettons, à d'autres endroits du front, risquent de se rendre, quoi, en disant, écoutez, non, ça va bien, moi j'ai... Donc la question, c'est est-ce que c'est une percée ou est-ce que c'est une débâcle? Ça, ouais. On le saura dans les jours qui viennent.
Hein, je pense qu'effectivement, on va le savoir assez vite. Comme j'ai dit, j'ai évoqué un peu l'ordre de grandeur des prises russes par jour, en moyenne. Donc récemment, on était encore à 2 km² par jour. Aujourd'hui, on est plutôt à 7 km² par jour. Si dans les prochaines semaines, on passe à 15 km par jour, puis 30 km par jour...
Non, on ne va pas passer à 7. On va passer d'un seul coup. Il y aura le fond qui s'effondrera. Quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de résistance. Quoi. Les gens mettront la crosse en l'air et diront ça va bien.
Ouais. Surtout qu'il y a quelque chose qui pour le coup, l'armée américaine ou le gouvernement américain ne va pas pouvoir y changer grand chose, c'est le matériel purement humain. Parce qu'ils peuvent toujours envoyer des drones, ils peuvent toujours envoyer des chars ou des missiles.
Mais Abrams, ils se font défoncer.
Ils veulent pas envoyer des hommes, ils y sont totalement opposés.
Ben oui, parce que à ce moment-là, c'est une déclaration de guerre à la Russie.
Hein. Ah ouais, ils sont pas chauds du tout.
Ah ben non, ça, je crois pas que ce soit une bonne idée de déclarer la guerre à la Russie. Peu de gens qui en sont sortis indemnes dans l'histoire.
Ouais, on se rappelle de la fois où Macron avait été bien plus qu'ambigu vis-à-vis de l'envoi d'hommes, où il n'y était pas du tout opposé. Il s'est fait quand même un peu corriger par tout le monde, déjà par à peu près tous les dirigeants d'Europe, et puis même par les porte-paroles de l'OTAN qui disaient non, nous, c'est pas du tout notre plan, on n'est pas du tout là-dessus. Nous, on envoie du matériel, on envoie de l'aide qui, derrière, en fait, va faire toutes les commandes de Lockheed, mais l'envoi d'hommes, c'est pas du tout dans les papiers, quoi.
L'OTAN supporte l'Ukraine comme l'armée américaine supportait le Vietnam du Sud, quoi. On attend avec impatience les hélicoptères avec les gars accrochés au train d'atterrissage de l'hélicoptère pour essayer de se barrer de l'ambassade américaine. Je sais pas, c'est une image que vous avez peut-être vue dans votre jeunesse, mais c'était à partir du moment où la guerre est une chose abominable, bien entendu, mais où vous la faites ou vous la faites pas, vous pouvez pas la faire à moitié.
Ouais, là, ils la font un peu à moitié.
Ils essayent de dire aux autres qu'ils doivent pas aider et tout, mais contre quelqu'un qui est résolu à faire la guerre, je crois que si on la fait à moitié, on la perd, quoi. C'est toujours pareil.
Ouais, là, c'est un peu... Je pense que l'idée qui fait son chemin maintenant au Congrès américain, c'est l'idée qu'ils vont continuer à aider financièrement l'Ukraine, mais que l'idée de gagner face à la Russie, elle est déjà...
Non, mais ce sera quoi l'Ukraine? Est-ce qu'il y aura Odessa dans l'Ukraine? Est-ce qu'il y aura accès à la mer? Parce que pour l'instant, d'après les dernières nouvelles qui sont sorties, les Russes et les Ukrainiens étaient d'accord pour arrêter le conflit en mars. Il y a 2 ans, je crois. Oui, il y a 1 an. Non, mars 2021, je crois. 2022. Juste 3 mois après le début du conflit. Et ça a été interdit par l'OTAN. Ils ont dit en aucun cas, vous ne signez une trêve avec les Russes. Donc, à partir de ce moment-là, la stratégie russe a changé. Ils avaient envoyé 150 000 hommes pour montrer qu'ils étaient fâchés. Bon, à ce moment-là, ils ont commencé à envoyer toute leur armée. Donc, ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce conflit, moi, qui me laisse absolument pantois, c'est... Quand vous commencez une guerre, il faut que vous ayez un objectif.
Ouais.
Pourquoi vous la faites? Comment vous la terminez? Quand est-ce que vous décidez que c'est un succès ou que c'est un échec? Et ce qui est très extraordinaire dans cette guerre, c'est qu'aussi bien l'OTAN que la France, que les États-Unis, que tout le monde, personne n'a dit d'abord comment ça s'arrêtait, et ensuite quand on considérait que ça serait un échec ou une certitude. Ils sont engagés en guerre simplement de façon réflexe, parce que l'Ukraine a été attaquée.
Oui.
Et ils ont arrêté le moment où on aurait pu déclarer, si j'ose dire, un match nul, et puis voilà, et puis on aurait trouvé, et repartir sur les accords de Minsk, etc. Non, non. Donc, le but de la guerre, d'après ce qu'on peut savoir de ce qu'ont dit l'OTAN à ce moment-là, c'était un changement de régime à Moscou, c'est-à-dire de faire tomber Poutine et de le remplacer par quelqu'un de plus...
Ouais, voir un démantèlement de la Russie. Quoi.
Voir un démantèlement de la Russie qui était l'hypothèse la haute.
Ouais.
D'abord, je vois pas ce qui autoriserait les États-Unis à faire des changements de régime. C'est pas comme s'ils l'avaient pas fait, mais ils l'ont fait. Et puis ensuite, si c'était ça le but, ils ont lamentablement échoué. Quoi. Donc la question que je me pose, c'est... Vous regardez un petit peu maintenant la carte des ressources dans le monde, qui est une chose... qui est importante. Bon, on sait aujourd'hui que la Russie est le premier ou le deuxième producteur de pétrole dans le monde, avec des réserves importantes, des réserves de gaz, etc. Mmh. Donc, ils ont certainement leur mot à dire sur le marché de l'énergie, en particulier l'énergie fossile. Si les Russes prennent Odessa et qu'ils ferment la mer Noire à l'Ukraine, ce qui peut être dans la Bulgarie, à ce moment-là, dans le commerce du blé mondial, c'est-à-dire de la bouffe, la Russie et l'Ukraine font entre 30 et 40% des exportations. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la Russie contrôle aussi 30 ou 40% de la bouffe. Et compte tenu des développements un peu partout, la Russie aujourd'hui contrôle une grande partie de ce qu'on appelle les yellow cakes, vous savez, les gâteaux jaunes, là, qui sont nécessaires à l'uranium, pour faire de l'uranium. Et il y a... C'est surtout le Kazakhstan, mais qui est complètement contrôlé par la Russie. Et l'autre pays qui peut le faire, c'est la Namibie, qui est contrôlée par l'Algérie, qui est contrôlée par la Russie. Donc, comme résultat de cette guerre, on arrive au résultat foudroyant, extraordinairement intelligent, que maintenant la Russie contrôle les hydrocarbures, l'uranium et la bouffe.
Ouais.
Pour le reste du monde. Donc, pour nous, c'est une défaite en race campagne, mais inouïe.
Ouais.
En particulier pour l'Europe. Parce que nous, on n'a ni bouffe, ni uranium, ni énergie. Donc les Américains, ils vont dire qu'ils s'en foutent là-bas, ils sont dans leur île et qu'ils n'ont rien à foutre. Mais pour l'Europe, c'est comme si, si j'ose dire, les armées de Staline avaient été jusqu'à Brest. C'est à peu près ça. Si on avait laissé les Russes arriver jusqu'à Brest en 1945, l'histoire politique de l'Europe n'aurait pas été la même. Donc cette guerre va déclencher une suprématie militaire de la Russie et économique de la Russie sur toute l'Europe, ce qui est invraisemblable de bêtises. Et il n'y a pas un de ces gars-là qui sera jugé pour soit incompétence, forfaiture, crétinerie. Ils continueront à parader sur toutes les estrades. Donc, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de voir cette immense médiocrité, incompétence de toute cette classe dirigeante européenne et américaine, d'ailleurs, et le manque de sanctions qui va être fait. Vous vous dites, mais les peuples sont devenus idiots.
Et alors, effectivement, il est très probable, sauf si des pays veulent s'endetter à donf, il est très probable que dans quelques années, la Russie redeviendra un partenaire commercial de plusieurs pays d'Europe.
Si elle veut bien,
effectivement.
Si on continue à être aux ordres des États-Unis, ils ne voudront pas.
Effectivement, donc si elle veut bien, déjà. Et d'autre part.
Il y aura des conditions si elle décide de vouloir bien. En particulier, ce sera de virer les bases américaines.
C'est une possibilité.
C'est une certitude, oui, c'est une possibilité. Donc, si vous voulez, on joue au poker avec un 2 de trèfle et un 3 de carreau, quoi.
Ouais.
On est cuit.
Et ce que j'observe en plus, c'est que non seulement il y a ça, mais il y a le fait que, en fait, les pays européens ne se préparent pas à cette éventualité, qu'en fait la Russie va avoir une importance commerciale énorme et que soit vous vous préparez à vous en couper et ça prend
mais
du temps, mais ça prend énormément de...
Mais vous pouvez pas.
Mais
vous pouvez
par
pas,
exemple...
Vous voulez faire, tout le monde me dit on va faire de l'uranium. Oui, mais on va faire de l'uranium, mais très bien. Mais d'où va venir le minerai? D'où vont venir les yellow cakes? Parce qu'il faut de l'acide sulfurique ou je sais pas quoi, il y a que la Russie qui en fait. Donc on fera de l'uranium si les Russes veulent bien. On peut pas le faire. Aujourd'hui, techniquement, c'est quasiment impossible. Donc vous vous dites, mais ils nous prennent pour des tanches ou quoi? Donc ce que j'essaie de dire, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe est... on avait repoussé la Turquie avec la Russie avec la chute du mur de Berlin jusqu'à la frontière russe. Maintenant, si vous voulez, il est évident que le patron de l'Europe, ça va être la Russie. Je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien.
Ouais, bien sûr.
Moi, j'ai 80 balais, c'est pas moi que ça va avoir dans la... Mais s'imagine, cette politique qu'ils ont fait était imbécile, malmenée, et ils ont pas réfléchi aux conséquences à long terme. La première des choses que vous faites quand vous commencez une guerre, c'est de savoir d'où va venir le fer pour faire les obus, d'où va venir l'énergie pour faire rouler les tanks.
Ouais.
Et ils ont rien fait de tout ça. Ils ont dit non, on le fait en question des principes.
Et puis oui, c'est-à-dire que effectivement, on a jugé avec des principes et il n'y avait pas d'objectif. C'est-à-dire que bon, le lendemain de la déclaration de la, enfin,
la déclaration déclarer que la Russie était criminelle dès le départ, c'était pas prendre en compte le coup d'État de Maïdan, pas prendre en compte le fait qu'on n'avait pas respecté les accords de Minsk. Enfin, il y avait toute une raison. Il y avait quelqu'un d'intelligent aurait pu faire une distinction entre. Non, on a décidé que nous, on était le camp du bien et donc on allait gagner. Oui, mais le camp du bien, il a pris une série de branlées, par exemple, je sais pas, mais j'ai pas l'impression qu'au Liban, par exemple, le camp du bien a gagné, quoi. Mais Logan Dubien ne gagne pas toujours. C'est le gars dans les films d'Hollywood qui gagne toujours. Mais nous, on a la réalité objective, c'est que l'Europe vient de subir une de ses plus immenses défaites historiques de tous les temps.
Et là, encore une fois, on ne sait pas exactement quels sont les objectifs des dirigeants européens, parce que autant il y a deux ans, en mai 2022, l'idée c'était de rétablir la situation initiale, qui n'était d'ailleurs, enfin, qui était une situation déjà instable, donc déjà c'était, compliqué. Mais aujourd'hui, plus personne ne parle évidemment de démanteler la Russie, et quasiment personne ne parle de reconstituer l'Ukraine telle qu'elle était juste avant 2022.
Le problème de l'Ukraine, c'est que vous avez tout l'ouest de l'Ukraine qui a la Galicie, qui sont polonais. Vous avez tout l'est de l'Ukraine qui sont russes, ils sont déjà dans la Russie. Vous avez tout le sud qui sont des Hongrois, et vous avez au milieu ce qu'on appelle les Ukrainiens, qui sont des moitiés russes et qui parlent un dialecte russe. Bon, il n'est pas du tout certain que les populations de Galicie, de Hongrie, ne vont pas dire « moi je préfère être attaché à la Pologne ou à la Hongrie que de rester avec ces corneaux de nazis russes,
ukrainiens.
Donc il n'est pas certain que l'Ukraine va survivre. J'en suis pas certain du tout. En tant que pays indépendant, je ne suis pas certain.
Oui, c'est vrai, c'est pas... C'est...
Avez le tiers de votre population qui est polonaise, le deuxième tiers qui est russe, 20% qui est hongrois là-bas au fond, et les autres qui sont ukrainiens, et si ceux du milieu, les Ukrainiens, ont craigné tout le monde dans la guerre et qu'ils ont fait tuer 500 000 jeunes, ils vont pas être très populaires avec les mamans locales. Ils diront, ça vous fait rien, je préfère rejoindre la communauté européenne en me rattachant à la Pologne.
Ouais.
Qui est d'ailleurs aujourd'hui la plus grosse armée d'Europe, enfin, qui ont peut-être préparé le terrain.
Ouais.
Tandis que nous, on n'a rien préparé du tout, on ne peut pas envoyer un régiment. Non mais, encore une fois, ce qui est stupéfiant, c'est qu'ils se lancent dans une guerre. D'abord, il y avait d'autres moyens que la guerre. Ils empêchent que cette guerre se termine à un moment où elle aurait pu se terminer par un match nul. Il continue, ça nous amène dans une défaite inimaginable dont la Russie sort renforcée. Aujourd'hui, la Russie est la seule armée du monde avec des centaines de milliers de soldats qui soient entraînés, prêts à se battre et avec une expérience de terrain. Nous, ça fait 70 ans qu'on n'a pas eu une guerre qu'on appelle intensive, si vous voulez, sur le terrain, avec des vraies armes et une vraie armée en face. On a eu des guerres de guérilla, mais c'est tout. Et les États-Unis, ils ont pris une branlée dans toutes les guerres où ils ont été depuis 30 ans, 40 ans. L'Allemagne n'en parlant pas. Donc, on se retrouve avec un pays qui domine les matières premières comme rarement dans l'histoire et qui va imposer ses conditions. On est cuit.
Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas du tout prêt à continuer notre politique telle qu'elle est faite aujourd'hui. C'est-à-dire que au début du conflit, il y avait tous les... Macron, le chancelier allemand, etc., qui était en train de se dire, voilà, il faut faire une armée européenne, voilà, il faut reconstituer le tout tissu militaire, etc.
On n'a pas de gamins, à quoi ça sert de faire une armée européenne?
Évidemment, à tous les niveaux, c'est très compliqué à réaliser, et d'abord, ils disent ça. Aujourd'hui, ils disent, bon, peut-être à l'horizon 2030, on a un plan global de planification, mais...
Les intérêts historiques de la France, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Allemagne, etc., sont pas du tout les mêmes. Nous, la seule chose qu'on pourrait faire militairement, c'est essayer, avec l'aide de la marine italienne et de la marine espagnole, de contrôler la Méditerranée.
Ouais.
Mais les Allemands, ils en ont rien à foutre.
Ouais.
Ils ont pas de villégiature sur la Méditerranée. Donc, il y a aucune raison qu'il y ait une armée européenne, puisqu'on a des intérêts qui sont complètement divergents. À quoi ça sert? Donc, tout ça, si vous voulez, c'est... L'Europe, comme disait De Gaulle, ils disent en sautant comme des cabris sur leur chaise, la solution c'est toujours l'Europe. Mais non, le problème c'est l'Europe. C'est qu'on essaye de faire croire qu'il y a des intérêts communs entre ces pays alors qu'il n'y en a pas. Par exemple, l'Allemagne a besoin d'énergie puisqu'elle est en train de foutre toute son industrie chimique aux États-Unis parce que l'énergie est trop chère en Allemagne. Nous on n'a plus d'industrie, donc on s'en fout du prix de l'énergie. Donc on n'a pas du tout les mêmes intérêts.
Oui, c'est vrai.
En fait, la France... on en sera plutôt moins embêté par les Russes que les Allemands, quoi.
Ah oui, bah c'est clair.
Les chevaliers teutoniques, ça fait un petit moment qu'ils prennent des branlées là-bas dans l'Est.
Ouais.
Ça a commencé, comment ça s'appelait, la grande bataille où les chevaliers teutoniques avaient été ratiboisés par les Lettons et les Polonais, je sais plus. C'était la fin de la chevalier teutonique qui ont succédé les Prussiens d'ailleurs. Donc ça fait un petit moment que si j'ose dire, le... l'Est de l'Europe, l'Allemagne, etc., se fait ratatiner par les Russes. Ça ne les empêche pas d'y retourner. Mmh. Et de ramasser une branlée à nouveau.
Ouais.
On est, aujourd'hui, on a ramassé la plus grande branlée depuis la défaite de Stalingrad. Quoi.
Ouais. On se souvient qu'en 2018, Trump avait justement averti
les
Allemands en leur disant bah, les gars, vis-à-vis de l'énergie, votre dépendance envers la Russie, elle n'est pas bonne. Parce que si un jour, effectivement, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes obligé de boycotter la Russie.
Parce qu'en effet, les Allemands, quand ils ont entendu ça, c'est quitter l'OTAN.
Ouais.
Et se rapprocher des Russes, ça aurait été intelligent.
Bah, en fait, oui, ils ont gardé les fesses entre deux chaises, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois,
oui,
ils sont dans l'OTAN,
on peut pas.
Et à la fois, ils étaient quand même très dépendants du gaz russe. Et donc, au moment où la guerre a frappé, bah, ils étaient un peu ambigus, les Allemands.
Donc, c'est vraiment un drôle de truc. C'est que des gens incompétents, sans connaissance historique, sans connaissance des réalités, sans perception de ce qu'est le monde de l'énergie, ont mené une politique imbécile pour essayer de se faire bien voir de leurs opinions politiques dont ils pensaient que c'était important que l'on défende l'Ukraine, ce qui peut se discuter. On est en train de ramasser la plus grande branlée diplomatique qu'on ait jamais reçue. Ça s'accompagne de branlées diplomatiques en Afrique, tant que vous en voulez, au Moyen-Orient, tant que vous en voulez. Et quand M. Xi vient nous voir pour essayer de nous raisonner en disant « ce que vous faites, c'est pas très malin », on l'emmène voir des paysans béarnais qui dansent la bourrée, c'est pas la bourrée parce que c'est sur le... et on lui donne du confit de canard à bouffer.
Ouais.
Mais il était pas venu parler de ça, hein.
Ouais.
Il était donc... Vous vous dites, mais quelle remarquable assemblée de crétins
ouais.
on a au gouvernement, quoi. C'est... Et maintenant, le franc CFA va être défait. Donc, mais vous imaginez pas le désastre diplomatique qui est en train d'assaillir la France.
Ouais.
Mais j'ai pas de souvenir d'un tel désastre. Quoi. Si peut-être le congrès de Vienne, quand les Russes avaient sauvé la France.
Ouais, ouais.
Ce qu'on oublie toujours, c'est que s'il n'y avait pas eu le congrès de Vienne, les Russes n'avaient pas insisté, la France aurait été coupée en morceaux. Et il n'y aurait plus eu de France. C'est les Russes qui nous ont sauvés en 1815, hein, parce qu'ils ont maintenu la France. Bon. Donc, je regarde ça, je me dis, bon, c'est un passage absolument extraordinaire de bâton. C'est pas qu'on a passé le bâton, c'est pas un relais, c'est qu'on a laissé tomber le bâton. Et on n'est plus dans la course. Vous savez, quand vous avez une course de relais à 4 fois 100 mètres, n'importe quoi, de temps en temps, il y en a un qui laisse tomber le bâton, bon, ben ça sert à rien qu'il continue à courir, hein, quoi. C'est...
Ouais, ouais.
Je me fais penser, ça me fait penser aux courses de chevaux de temps en temps d'obstacles où il y a le jockey qui a été viré du cheval, vous savez. Et vous avez le cheval qui continue à galoper avec les autres. Nous, on est un cheval sans jockey. On n'a plus rien. On n'est plus rien. On est devenu Venise au XVIIIe siècle. Quoi.
Ouais.
On n'est plus rien.
C'est dramatique. Est-ce que la France pourrait se relever de ça ou est-ce que c'est...
Avec les gars qui sont de pouvoir, sûrement.
Non, pas avec les gars qui sont au pouvoir, avec d'autres gars au pouvoir. Gars,
j'en sais rien, mais en tout cas, avec les gars, mais si vous voulez, mais même l'analyse faite par les oppositions est grotesque, quoi.
Ouais. Oui,
le Front National est grotesque, sur tous les problèmes d'énergie, de souveraineté, etc., ils sont tous en train d'essayer, ils essayent de jouer, d'être invités au château avec les autres petites filles. C'est grotesque comme politique, quoi. Donc, on est à une époque de rupture historique et on essaye de gouverner comme si on était en 1970 entre le centre et la droite et la gauche. Donc, ils comprennent pas.
Ouais.
Il y a personne dans le monde politique qui comprend que nous rentrons dans des temps historiques.
Et personne n'a le bon diagnostic pour pouvoir s'y préparer, en fait.
Mais d'abord, ils s'y sont préparés, ils ont été se faire casser la gueule.
Ouais.
Enfin, ils ont plutôt autorisé que... On tue 500 000 jeunes ukrainiens, ce qui est un crime contre l'humanité, s'il n'y en a jamais eu un, quoi. Et ils pouvaient arrêter ça au bout de 3 mois, il y aurait eu 10 ou 20 000 victimes. Bon, ça aurait été un peu triste, mais on n'aurait pas parlé. Mais là, 500 000 jeunes Ukrainiens, c'est toute une classe d'âge qui a entre 20 et 40 ans, qui est morte.
Mmh.
L'Ukraine était, quoi, 45 millions d'habitants, je sais plus combien. Ils doivent être à 26 ou 27 maintenant, parce que tous les gens sont barrés, ils sont partis ailleurs.
Ouais, bah ça, on a vu, oui, les réfugiés donc, ukrainiens, principalement les femmes.
J'ai pas de... Si, c'est quand le roi de France était devenu fou, là, avec Isabeau de Bavière, et que la France était partie en... pendant la guerre de Cent Ans, d'un seul coup. Ben oui, on est gouverné par des fouilles de demeurés, donc ben voilà.
Oui, bon, ça c'est un diagnostic assez fréquent qu'on fait sur cette...
Oui, mais ce qui est étonnant, c'est qu'on ne le porte pas sur la Russie, sur l'Ukraine.
Ouais.
Ils ne comprennent pas qu'aujourd'hui, la Russie domine la livraison totale des matières premières, de l'énergie et de l'uranium à l'Europe. Donc on est là, on se tape sur la poitrine, mais on ne peut pas avoir d'industrie si on n'a pas d'énergie. On ne peut pas avoir d'industrie nucléaire si on n'a pas d'uranium. Et on a perdu le Niger.
Oui, qui était un...
Bon, c'est le seul endroit où on le trouvait.
Non, c'est pas le seul endroit.
Il y a le Kazakhstan, il y a la Namibie. Mais la Namibie était complètement sous le contrôle de l'Algérie, pour des raisons historiques. Donc vous dites tout ça et vous dites, bon, c'est quand même des gros crétins.
Ouais. Et pour revenir sur le...
Ce qui est dommage, c'est qu'on puisse pas les juger.
Oui, en tout cas pas encore. Pour le moment, alors pour revenir au front, la Russie serait également en train de préparer une avance du côté de Kharkiv, donc plus dans le nord, alors que le Financial Times a évoqué une alerte de plusieurs services de renseignement concernant des possibles sabotages en tout genre venant des services russes pour faire des pieds de nez à plusieurs gouvernements européens. La Tchéquie
ça,
notamment...
J'en vois pas un mot.
Ah oui,
parce que... Le Financial Times, c'est le MI5, c'est le MI6. Qui est en train d'expliquer qu'ils vont faire du terrorisme et tout. Mais le Financial Times, ça fait à peu près 10 ans qu'ils nous annoncent l'écroulement de la Russie et l'écroulement de la Chine instantanément sous peu. Donc, c'est la voie armée des services secrets britanniques qui sont très responsables dans tout ça parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup conseillé les Américains.
D'accord.
Donc, si vous voulez, il y a une espèce d'alliance objective dans... pour des raisons historiques, contre la Russie. Et c'était les Anglais qui étaient en fer de lance. Et ça, ils ont commis un grand crime. Là.
Mais est-ce qu'ils peuvent avoir raison de temps en temps, quand même? Parce que, comment dire, là, j'ai juste trois exemples. Il y a la Tchéquie...
La première chose qui disparaît en cas de conflit, si vous voulez, c'est la vérité.
Oui.
Donc, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que le journal, comme le Financial Times, qui est la voix de son maître, dise la vérité en ce moment. Ce serait... Réfléchissez une seconde. Si les gouvernements avaient des informations sur les attentats qu'ils vont commettre ou je sais pas quoi, ils nous le diraient pas.
Je sais pas, c'est juste
le
journal qui dit des trucs.
Mais j'entends bien. Mais donc si ce journal le dit, c'est qu'on lui a dit de le dire.
Ouais.
Parce que comme on est en train de perdre, c'est peut-être nous qui allons organiser les attentats pour faire mal voir les Russes.
Ouais, après, je sais pas, parfois il peut y avoir des dialogues. Il me semble que les renseignements américains avaient prévenu les Russes d'une potentielle attaque terroriste, justement par rapport à l'attentat de Moscou, quelques jours avant. En l'occurrence, ça s'est passé. Voilà, parfois il y a.
Oui, mais je dis pas que ça se passe, je dis pas qu'il ne va pas y avoir d'attentat terroriste, je dis, c'est pas. C'est peut-être une généralité, je ne sais pas. Mais ce n'est pas tellement dans la mentalité des Russes d'organiser des attentats contre des civils.
Non, je ne parle pas d'attentats contre des civils.
Mmh.
Ah non, je ne parle pas de ça. Je parle
Ils vont peut-être brouiller.
Non, je parle de sabotage sans perte civile.
Vous voulez dire comme les pipelines, hein?
Non, oui.
C'était la faute de la Russie, paraît-il.
Oui, voilà.
Non, qu'ils nous fassent des attentats, des trucs, des machins, non, c'est évident.
Je parle plutôt de cyberattaque. Il y a un train sur la route du fer en Suède qui a déraillé deux fois en février et en décembre. Et en Angleterre, il y a un centre de stockage d'aide matérielle pour l'Ukraine qui a été incendié dernièrement. Je parle de ce genre de choses. Je parle pas
d'attentats. Ça changera rien. Ça, c'est pour de... C'est pour essayer de rendre les Russes impopulaires dans nos pays, c'est tout. Ça change rien. Je suis même pas certain que ce soit les Russes qui les organisent, parce que quand je vois les coups tordus que fait la CIA ou l'FBI, je me dis ils sont tout à fait capables de faire dérailler un train aussi. Si les Russes en sont capables, ils en sont capables aussi. Hein.
Mm-hmm.
L'essentiel, si vous voulez, c'est qu'on dise c'est les Russes.
Ouais.
Donc non, je n'ai... En d'autres termes, ce que j'essaie de vous dire de façon parfaitement claire, c'est que je n'ai plus aucune confiance dans les gens qui nous dirigent, qui sont sous le contrôle de la CIA, du FBI. Et ces gens-là sont en roue libre et plus personne ne les contrôle politiquement aux États-Unis non plus. Donc vous avez une classe criminelle au pouvoir aux États-Unis avec ses représentants partout dans le monde et qui est en train de ramasser la plus grosse déculottée historique que nos pays aient connue. Et ils sont un peu gênés, ils vont essayer d'expliquer que c'est pas de leur faute, c'est pas eux, ça se passe ici ou là. Mais il faut pas perdre de vue que il y a 55 personnes de la CIA, de FBI, qui, à un moment de l'élection présidentielle, la dernière aux États-Unis, ont fait publier un communiqué qu'ils ont tous cité, signé, ancien patron de la CIA, du FBI, des juges, etc., qu'ils avaient les preuves formelles que Trump était acheté par les Russes. Et on sait aujourd'hui que c'est pas vrai. Donc vous avez 55 gars dans des positions extraordinairement éminentes, l'ancien patron de la CIA, etc., qui ont menti sous serment. Donc je n'ai aucune raison de croire que ces gars-là, aucune des nouvelles qui va arriver dans les 3 mois qui viennent, je ne la croirai. Parce qu'ils sont simplement pas crédibles. Ils sont des criminels, quoi.
Oui, effectivement. Il faut se rappeler que, alors, juste après l'élection de 2020, tous ceux qui contestaient la légalité de l'élection étaient traités de complotistes. Mais en 2016, à peu près tout le camp démocrate était totalement complotiste aussi. Et même peut-être plus gravement encore, en prétendant que Trump avait été élu par les Russes. Ce qui était complètement faux. Derrière, il y a eu une enquête de plus de 3 ans dessus qui a conclu absolument rien de tangible.
Ça n'a pas empêché le président américain d'être impeached,
ouais,
par le Congrès, parce qu'ils l'ont fait quand même. Donc, encore une fois, là, vous avez un vrai problème, c'est que montre très bien le jeune Kennedy, là, celui qui est candidat, le fils de Robert,
ouais.
Robert Kennedy Jr., il montre les liens qui unissent ces grands hommes politiques avec des groupes qui sont le groupe pharmaceutique, l'industrie de l'armement, etc. Et il montre l'extraordinaire prégnance dans toute la vie américaine de sociétés de réglementation, de régulation, les petits hommes gris, là, qui empêchent ceux qui ne sont pas d'accord avec eux de produire, d'avancer, etc. Donc, pour moi, on va me traiter de complotiste, mais j'en ai rien à foutre. Ça m'est complètement égal, parce que c'est la réalité. Aujourd'hui, il y a des forces au pouvoir dans nos pays qui n'ont rien de démocratique. Et donc, quand elles viennent me dire vous êtes en faveur de la dictature et vous défendez pas la démocratie, nous ne sommes plus des démocraties depuis un petit moment. Je ne pense pas qu'aujourd'hui le pouvoir en France soit un pouvoir démocratique.
Ouais, en tout cas, oui, bien
plus. Quand vous faites 20% des voix, vous pouvez pas dire que vous représentez le peuple.
Oui, oui.
Le cas échéant, vous démissionnez, vous vous représentez pour voir si. Mais à 20% des voix, qu'est-ce qu'ils vont faire sans doute aux élections, c'est grotesque.
Ouais. Oui, bah là, ils vont faire peut-être 15 ou 16 là aux prochaines élections.
Mais ça les empêchera pas. Ils sont pas représentatifs, oui, donc ils peuvent pas nous amener dans une guerre.
Ouais. Je suis d'accord.
Il ne peut pas nous amener dans une guerre.
Je suis tout à fait d'accord. Est-ce que Trump pourrait changer ça?
C'est-à-dire que les Russes ont tout intérêt. Parce que d'abord, vous avez deux analyses possibles que peuvent faire les Russes. C'est dire cette espèce de pouvoir mafieux, etc., est en train de les foutre en l'air.
Ouais.
Donc, comme c'est plutôt mes ennemis, j'aurais peut-être intérêt à ce que ce soit Biden qui soit réélu.
Ouais, justement, je voulais en parler, oui.
Ça, c'est la première hypothèse. De l'autre côté, vous vous dites, mais ils sont extraordinairement dangereux, et ce serait peut-être plus simple si on venait à un monde où on reprenait les relations internationales normalement, où on se débarrasse de toutes les crapules, un peu comme quand le mur de Berlin est tombé, on s'est débarrassé de tous ces gens-là, donc on se débarrassait. Donc ce serait notre mur de Berlin qui tomberait. Et donc, un cynique se dirait « je vais laisser faire Biden », et un réaliste se dirait « j'ai plus à gagner si Trump était élu ». Mais ce sera beaucoup plus facile pour Trump si le 4 novembre, au moment d'élection, ou le 5, la situation est nettoyée. C'est-à-dire que...
Oui, c'est clair. Ouais.
Donc, c'est entre maintenant et novembre qu'ils peuvent agir pour prendre des sas, fermer la rue, etc., imposer leurs conditions, et voilà. Et il y a quelque chose de très intéressant, c'est que Poutine vient de remplacer le général en chef. Le ministre de la Défense.
Ouais.
Et c'est très intéressant parce que il avait sans doute un contrôle assez puissant sur l'armée, cet homme. Hein.
Oui, Shoigu.
Shoigu. Et il a mis un civil. Et quand vous remplacez un militaire par un civil, ça veut dire que vous ne voulez pas qu'il y ait un coup d'État fait par les militaires. Quoi.
Oui, c'est clair. Ouais. Ouais. On se souvient, il y a presque un an, il y avait eu la possibilité de... Enfin, Prigogine qui était devenu...
Oui, absolument. Coup, là, bon, très bien. Donc, ça veut dire que Poutine est en train de préparer l'après-guerre.
Peut-être, ouais, c'est
possible. En mettant un civil à cet endroit-là et non pas un militaire. Et voilà. Donc les Russes se disent, bon, on a encore 6 mois, même pas, oui, 5 mois. Il faut qu'on ait pris Odessa, mais voilà. S'ils ont pris Odessa, bon, à ce moment-là, j'imagine que le président de la République ukrainien prendra un avion et filera, ou sera assassiné, je sais pas, prendra un avion et filera quelque part. Et puis, il y aura des élections pour une Ukraine qui fera de la taille de la Biélorussie, quoi. Il n'y aura plus rien à sortir, et puis c'est fini, quoi. Mmh. Et c'est extraordinaire, parce que la seule chose, après tous les contacts que j'ai pu avoir, que demande, c'est ce que Poutine avait dit à Sarkozy, à Mme Merkel, aux Anglais, aux Américains, à la réunion de Moscou, à la réunion de Berlin, c'était en aucun cas, je ne veux que l'Ukraine soit dans l'OTAN. C'est la seule chose qu'il demandait. Donc ce qu'il demandait, c'était la neutralité de l'OTAN. 500 000 morts après.
De l'Ukraine, ouais.
Et une défaite inouïe. Voilà, on en est. Quelle bande de crétins.
Ouais. Et justement, alors, Poutine a déclaré, il y a quelques semaines, dans une interview, qu'il préférait que Biden soit réélu plutôt que Donald Trump.
Alors après, pas obligé de le croire. Là.
Voilà, il y a deux lectures. Soit il est premier degré, soit il rigole un peu. Mais cela dit, je pense que ses arguments peuvent être entendus. Donc il a dit qu'il préférait que Biden soit réélu plutôt que Trump lors des prochaines élections en novembre. Il a ajouté qu'il estimait Biden plus expérimenté et prévisible. Sans doute que le terme...
Comment voulez-vous prévoir un gars qui est gâteux ?
Je trouve que Biden est quand même beaucoup plus prévisible. C'est-à-dire que, je veux dire, par rapport à ce qu'il fait militairement en Ukraine, Trump peut être beaucoup plus menaçant. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il va mettre ses menaces à exécution, mais il y a toujours une probabilité non nulle pour qu'il le fasse quand même, parce qu'il peut paraître plus imposant, plus impulsif, plus offensif, même s'il ne l'est pas forcément. Alors que Biden, il dit à l'avance tout ce qu'il va faire, en fait. Et à chaque fois, tout se produit. On sait qu'il va pas envoyer de soldats. Il l'a dit depuis le début, avant.
Depuis le début, il devait pas envoyer de missiles. Il en envoie. Hein.
Ouais.
Il devait pas envoyer de missiles à longue portée. Il en envoie.
Ouais.
Biden, les missiles devaient pas être en Pologne. Ils y sont.
Ouais.
Donc, si vous voulez, le fait qu'un président américain dise quelque chose, ce qui est certain, c'est que Poutine n'en croit pas un mot. Parce que ça fait 20 ans qu'il monte comme des arracheurs de dents.
Mais je pense que Biden est largement plus prévisible que Trump quand même, du point de vue de Poutine. C'est une situation, je pense, qui lui convient. Trump, faut pas oublier que pendant le mandat de Trump, Poutine, il a rien fait en termes d'annexion de quoi que ce soit. La Géorgie, c'était avant. La Crimée, c'était avant. Oui, Trump n'a pas attaqué,
tandis que Biden l'a attaqué.
Trump, en Syrie, il n'a pas été tendre avec les Russes. Hein.
Trump, il n'a pas été... bougez pas, c'est les Russes qui ont empêché la... C'était les Russes qui ont empêché la... C'était pendant Obama, ça. Pendant le soi-disant coup d'État militaire en Syrie, où les Russes étaient en train de battre... Je veux dire, les ISIS, etc., étaient en train de battre les troupes syriennes, et les troupes... Russes sont intervenus et ont fait basculer maintenant à Faisal Assad, enfin son fils est toujours. Donc non, si vous voulez, la Russie a bloqué les États-Unis dans l'histoire du pipeline qui devait aller du Qatar à la Turquie et à servir l'Europe, à remplacer le... Ça, c'était Obama. Donc ils ont bloqué la guerre civile, ils ont permis à la guerre civile. Donc ça fait à peu près 10-15 ans que Poutine bloque les unes après les autres, toutes les tentatives des États-Unis pour prendre le contrôle et faire passer l'énergie du Moyen-Orient à l'Europe.
Oui, mais là je parlais en 2018 en particulier à deux occurrences. Il y a les États-Unis qui ont fait des frappes sur une base aérienne qui était utilisée par les Russes en Syrie. Et à un autre moment aussi, Trump a bombardé des gars de Wagner et le nombre de morts est à trois chiffres quand même.
Oui, oui, je veux bien tout ça. C'est,
mais ce que je veux dire, c'est qu'il a jamais voulu.
C'est pas certain
Poutine
que
était un méchant, mais il a jamais
Trump
hésité.
Trump avait donné l'ordre aux troupes américaines de quitter la Syrie trois mois avant la fin de mandat, et le Pentagone a refusé. Ils n'ont pas obéi. Donc, si vous voulez, quand vous me dites qu'ils ont bombardé ceci ou cela, j'aimerais être sûr que l'ordre soit venu de Trump.
Ah, je crois que oui, hein, pour le coup.
C'est possible. Mais en tout cas, il y a des tas de gens qui n'ont pas obéi. Parce que quand je parle à mes amis du Moyen-Orient, ils me disent « Nous, on voudrait bien faire ce que veulent les États-Unis, mais on ne sait pas si on doit suivre la politique préconisée par le département d'État, par le Pentagone ou par la CIA. » Alors, comme ils sont tous les trois, ils ne se parlent pas. Donc, vous avez des intérêts absolument extraordinaires qui ne sont pas vraiment convergents. Donc, encore une fois, je ne suis pas sûr, je n'ai pas de vision sur Trump, ni sur Poutine, d'accord. Mais je sais que les Russes ont intérêt à faire rendre la situation irréversible avant novembre. Mais à ce moment-là, Trump pourra dire comme elle est inéversible, je la prends en cause.
Oui, bien sûr.
Mais c'est la faute de ce crétin de Biden.
Ouais. Mais d'ailleurs, oui, je pense que Trump, il est très ouvert sur. Il a pas de théorie exacte sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire en Ukraine. Je pense qu'il prend la situation telle qu'elle est. Et ensuite, on avise en fonction de ça, et voilà, on prend la réalité en compte, quoi. On n'a pas besoin de se dire, on reconstitue l'Ukraine telle qu'en 2013, ou je sais pas quoi.
Non, pour moi, si vous voulez, il est tout à fait évident que de cette crise qui a commencé avec Maïdan, là, vers 2014, et même avant, on peut dire 2008-2009, avec les premiers troubles dans le Donbass, etc. L'Europe a laissé la direction de la politique complètement aux États-Unis, et que ça se termine, la seule conclusion qui m'apparaît évidente dans tout ça, États-Unis, Russie, etc., ça se termine par une défaite de l'Europe en race campagne, comme il n'y en a pas eu depuis la défaite allemande de 1945. On a à peu près le pouvoir de l'Allemagne en 1945-1946. Bravo les gars, c'était bien, bien joué. Et Sarkozy a bien fait de rejoindre le commandement militaire unifié de l'OTAN, parce que ça aussi, ça nous a bien plombé. Il a bien fait d'aller tuer Kadhafi avec son copain Cameron, là, parce que ça a fait sauter le verrou libyen qui a permis à toute l'immigration d'arriver chez nous. Donc on a quand même une série de crétins qui ont été au pouvoir depuis 20 ans, qui, historiquement, sont sans exemple dans l'histoire. Quoi. Je n'imagine pas une période dans l'Europe où nos élites ont été aussi nulles. Même les Algues avant 1939, ils n'étaient pas aussi nuls.
Ouais.
Donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais qu'en tout cas, c'est l'effondrement de politique, c'est l'effondrement de l'Europe comme entité politique. La question, c'est est-ce qu'on va passer de cet effondrement de l'entité politique européenne à une renaissance des nations européennes ? C'est ce que le futur nous dira. Mais en tout cas, je sais aujourd'hui que l'Europe en tant qu'entité politique, ça ne marche pas.
Ce qui est sûr, c'est que l'Europe ne peut pas se comporter dans les années qui viennent comme elle s'est comportée par le passé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est justement ce qui nous mène dans
le... On aura la permission, si vous voulez, vous demander à votre papa d'emprunter la voiture pour sortir le soir, et il n'y a pas d'essence dans la voiture, et il vous refuse de vous habiller pour aller vous balader, vous prenez le métro.
Ouais.
Donc, si vous voulez, aujourd'hui, nous allons être obligés de mendier pour avoir notre énergie.
Ouais.
Mendier, s'il vous plaît.
Ouais.
Mon bon monsieur.
Et oui, c'est possible que dans les années qui viennent, on fasse exactement la même chose que pendant le Covid, au début là, de l'invasion russe, où on allait acheter toutes nos matières premières, du coup, non pas à la Russie, mais à ceux qui l'avaient eux-mêmes acheté à la Russie, et du coup, à un prix bien plus élevé, et du coup, à chaque fois,
on peut faire ça, mais aussi, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a dit, nous, on a l'Afrique en arrière, l'Afrique maintenant, elle est complètement sous le contrôle des Chinois et des Russes. Alors merci, donc on ne peut pas l'acheter à l'Afrique. Alors, puis en plus, il y a l'Inde qui va acheter toutes les matières premières qu'autrefois la Russie nous vendait, mais donc ils vont. Donc le problème, c'est qu'il n'y aura pas de matières premières pour nous. Point barre. Il n'y en a pas. Et on n'a pas les moyens de se les payer. C'est tout. Mais je veux dire, je ne comprends même pas pourquoi les gens s'énervent.
Ouais.
Donc, vous aurez plus, il y a tout un tas de trucs que vous aurez plus, parce que vous ne pouvez pas l'acheter, quoi. Vous n'avez pas le pouvoir d'achat.
Ouais. Bah oui, si on ne produit rien, forcément, et que...
Si on produit des trucs comme... Eurovision, là, avec... c'est ça qu'on peut... c'est à peu près notre seul truc qu'on produit, c'est LGBTQ.
Oh là là.
Voilà. Donc, Brunet, pour moi, c'est l'extraordinaire... Vous savez ce que disait ce brave Bismarck, qui était quand même... qui savait comment mener des négociations. Il disait, faire de la diplomatie sans avoir une armée, c'est faire comme de la musique... sans avoir d'instrument.
Ouais, bien sûr.
Eh ben, on a voulu faire de la diplomatie agressive et on n'a pas d'armée. Donc on termine déconfit. Et on le sait depuis le début de l'histoire. Si vis pacem, parabellum, si tu veux la guerre, prépare la paix.
Ça fait bien
si
longtemps.
Tu veux la paix, prépare la guerre.
Ça fait pas mal de temps que la France ne fait sa diplomatie qu'avec son histoire. C'est-à-dire qu'on a une position dans le monde.
Il nous restait un petit peu d'armée, il nous restait un petit peu de la force de frappe, etc. Mais le génie qu'on a au pouvoir veut maintenant donner la force de frappe à l'Europe.
Ouais.
Mais il faut l'enfermer.
Ouais. On se souvient, ça devait être en 2006 ou en 2004, je ne sais plus, il y avait une fameuse commission Attali où il y avait justement Macron, juste à côté de lui, donc le jeune Macron, qui proposait pour réduire nos dépenses, en fait, pour moins s'endetter, réduire nos dépenses publiques, etc. Pour se faire un peu de budget, il proposait de vendre notre arme nucléaire. Et il avait fait une estimation, il s'était dit, voilà, ça nous rajoute 14 milliards.
Mais quel con.
14 milliards.
C'est ce qu'on a perdu.
Je sais pas si on se rend compte du truc.
C'est ce qu'a perdu EDF à cause de ces marnies, mais ils ont perdu 25 milliards.
Ouais.
Et c'est un autre truc qui me laisse pantois sur ce pays, c'est quand EDF perd 25 milliards, personne ne dit rien. Personne ne manifeste et tout. Et s'il y a Total qui en gagne 10 ou 12 après s'être donné du mal et pris des risques au fin fond du Canada ou je sais pas quoi, là tout le monde gueule. Oui. Donc il est quand même extraordinaire que dans ce pays, quelqu'un qui perd 25 milliards, on le chasse pas à coups de botte.
Ouais, l'inversion totale des valeurs, quoi.
Non, mais vous dites, mais les gars, vous rendez pas
compte. On va vous chasser si vous gagnez de l'argent et si vous en perdez, tout va bien, quoi.
Donc si vous enterrez vos talents, là, on va vous fêter, vous mettre des couronnes de laurier sur la tête et puis jouer de l'harpe à côté de vous, mais si par hasard vous ramenez 4 talents de plus, alors là, vous allez punir. Donc vous dites, on a quand même réussi à faire, après des années d'éducation socialiste à l'école, les gens passent comme des planches.
Ouais, c'est clair.
Donc on a des... c'est vraiment, si vous voulez, ce que j'avais donné il y a un certain nombre d'années, c'était l'ineptocratie, vous savez. On est en ineptocratie, où les gens les moins capables de gouverner... sont élus par les gens les moins capables de travailler. Et tout ça sont payés par des gens qui savent travailler, mais dont le nombre diminue en nombre constant, parce que tous ceux qui sont bons sont bons.
Ouais. Oui, parce qu'ils sont intelligents, quoi.
Non, mais ils vont ailleurs.
Ouais, bah oui.
Vous allez vous les balader partout, vous avez des Gaulois partout.
Bah oui.
Vous allez en Hong Kong, il y a un nombre de Gaulois incroyable.
À chaque fois, c'est vraiment fascinant s'il y a quelques personnes qui nous écoutent, qui regardent la télé de temps en temps. Souvent, le dimanche, dans 7 à 8 ou les émissions comme ça, les émissions du dimanche après-midi, il y a des types qui font des reportages sur certains domaines de l'économie ailleurs dans le monde. Donc, ils vont regarder, par exemple, je sais pas, le domaine de la tech en Californie, le domaine de l'immobilier en Floride, des trucs comme ça, quoi. Et ce qui est fascinant, c'est le nombre de Français qui croisent à chaque fois dans ces domaines-là. Et ce sont, à chaque fois, ils arrivent à s'imposer, ils arrivent à terminer dans les meilleurs, à se faire mais des millions et des millions. Ils sont reconnus vraiment par leur milieu. Et c'est quelque chose qu'ils ne pourraient pas ou quasiment pas faire en France. On empêche les Français d'être bons en France. C'est dramatique.
Si vous êtes bon... Vous savez, encore une fois, j'en reviens à une phrase de Dostoïevski qui était tout à fait remarquable, qui disait « Nous rentrons dans une période, dans une époque où les gens intelligents ne pourront plus parler de faire de la peine aux crétins. »
Ouais.
Ben on y est. Les gens intelligents ne peuvent plus parler parce que les crétins se mettent à gémir en disant vous dites du mal de moi. Mais oui, mon grand, dans le temps.
Comment ne pas le faire?
On savait que t'étais un crétin dans le temps. Et puis t'étais là, tu demandais de l'aide et on était gentil, on t'en donnait. Mais maintenant, tu prétends commander en tant que crétin.
Ouais.
Eh bien, on va au désastre. La crétinerie, ça n'a jamais été un requirement, être requis pour être chef d'État.
Oui, bien sûr.
En principe, on essayait d'élire le mieux. Celui qui était le plus d'habitude, on mettait un ancien militaire parce qu'il avait vu la mort de près.
Ouais.
Tandis que là, on met des gamins de 35 ans, 30 ans, 32 ans, qui n'ont jamais sorti du 7e.
Ouais.
Donc, on est gouverné par des crétins qui pensent que le peuple est crétin.
Pour moi, le fait d'avoir 35 ans n'est pas forcément incompatible avec.
J'adore Napoléon, ils avaient tous 35 ans.
Voilà. Ouais. Mais, je veux dire, Gabriel Attal, en l'occurrence, je suis désolé, mais ça va pas le faire.
Non, il est gentil.
Rien que la photo que j'avais vue quand, justement, on a reçu Xi Jinping la semaine dernière, de Attal juste à côté de Xi Jinping, Attal ressemble à un stagiaire.
Ouais.
Littéralement, il a une petite chemise qui coûte 40 euros. Enfin, on dirait qu'elle coûte 40 euros qu'il a acheté chez Célio. Enfin, je sais pas ce qui se passe. Et à côté, Xi Jinping, il a cette espèce de flegme un peu. On sait jamais trop ce qu'il pense, mais voilà, il en impose pas mal physiquement, même s'il a pas forcément un charisme actif très 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 hallucinant. Mais à côté de Attal.
Mais vous avez écouté, j'ai écouté il y a quelque temps le discours de Xi Jinping pour les vœux de fin d'année, c'était il y a 2-3 ans, qui était traduit en même temps. Le type, il passait son discours, qui a duré une heure, à expliquer comment la Chine allait se projeter dans le 21e siècle, les percées technologiques qu'il voulait faire, les endroits où il voulait aller, la politique énergétique, la politique diplomatique, etc. Donc c'était vraiment un exposé de la méthode et des objectifs. Et vous écoutez Modi, il vous parle de l'Inde, vous écoutez de l'Inde éternelle, vous écoutez Xi Jinping, il vous parle de la Chine éternelle, vous écoutez Poutine, il vous parle de la Chine, de la Russie éternelle, et nous on nous parle des LGBTQ, quoi.
Ouais.
Et vous dites, mais ils sont fous. Mais la France éternelle, où elle est dans tout ça?
Ouais. Oui, ça c'est sûr. Macron, il nous parle pas de la France éternelle. Hein.
Il nous parle de la République, qui a commencé en 1793. Mais il y avait quelque chose avant.
Ouais.
Il y avait quelque chose qui était de la France. Donc, si vous voulez, cette incapacité de parler du pays et qui parle de souveraineté uniquement de souveraineté européenne, il a rien compris.
Mais en fait, Macron, globalement, quand il nous parle, la plupart du temps, il nous parle de rien.
Non, mais quand il parle de souveraineté, non, il dit toujours la même chose. Dès qu'il y a un problème, c'est il faut plus d'Europe et il faut transférer nos souverainetés à l'Europe.
Oui.
Il veut transformer notre vote aux Nations Unies, il veut transformer l'arme nucléaire à un Allemand qui appuiera sur le bouton pour détruire Paris. Donc on est tranquille. Donc il a une idée, il ne change pas d'avis sur cette idée. Depuis le début, il est sur abandonnons la France et créons l'Europe. Mais c'est son idée de fond, ça, il a jamais changé là-dessus. Hein. Ouais. Il n'y a pas dans le même temps. Là, hein.
Mais je veux dire, dans le discours, il y a parfois une ambiguïté, c'est-à-dire qu'il nous dit que voilà, il veut plus de souveraineté française européenne. C'est juste impossible. Ça, c'est
rien dire,
c'est logiquement, conceptuellement,
ontologiquement
impossible. Oui.
Vous pouvez être à moitié moins ça, vous l'êtes ou vous l'êtes pas.
Vous êtes souverain ou vous l'êtes pas.
Vous êtes souverain ou vous l'êtes pas.
Je veux dire, il y a une balance de souveraineté entre la France et l'Europe. On peut pas augmenter les deux. Vous avez un nombre total de prérogatives qui ne peut pas.
Il y a une souveraineté française. Il n'y a pas de souveraineté européenne puisqu'il n'y a pas de peuple européen. Donc, il ne peut pas y avoir de souveraineté européenne.
Oui, mais
c'est idiot.
Je veux dire, dans le sens, il peut y avoir des prérogatives.
On peut déléguer des souverainetés, mais qu'on reprend quand on veut.
Oui, absolument. Ouais.
On les abandonne pas.
Ouais. Oui, c'est ça la souveraineté. Ouais.
C'est ça la souveraineté. La souveraineté, c'est ce qu'on ne peut pas abandonner.
C'est, par définition juridique, c'est la prérogative de nos prérogatives.
Voilà, c'est ça.
Voilà, donc qui a nos prérogatives?
On n'a plus de prérogatives et on n'a plus de souveraineté. Donc le sort, je suis très triste, hein, mais le sort qui nous attend, c'est Venise au 18e, quoi. On devient un endroit où les gens qui n'ont rien d'autre à foutre viennent pour regarder les musées, quoi.
Oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, aujourd'hui, une grosse partie de notre économie repose sur le tourisme basé sur des trucs qu'on a construits il y a 300 ans.
Une chanteuse américaine qui est arrivée la semaine dernière, je sais plus comment elle s'appelait, celle qui a fait des concerts là, l'Arena.
Taylor Swift.
Taylor Swift, elle est venue. Il y a beaucoup plus d'Américains qui sont venus que ne viendront pour les Jeux Olympiques.
Oui, oui, j'ai vu ça. Il y a des Américains qui ont conclu que c'était plus économique pour eux.
Mais c'était 200 euros la place alors que c'était 10 000 aux États-Unis.
Voilà. Donc vous faites un aller-retour. Je ne sais pas d'où vous vivez. Vous vivez peut-être à Miami. Vous faites un aller-retour Miami-Paris. Paris, vous allez à l'hôtel, vous allez au concert de Taylor Swift, vous revenez quelques jours plus tard à Miami, ça vous aura coûté moins cher que d'attendre que Taylor Swift joue dans votre ville. Voilà.
Donc voilà ce qui nous attend.
On parlait justement, c'était il y a 2 semaines, on parlait justement de la différence de revenus entre les Français et les Américains. Et là, on voit un exemple typique de ce qui se passe.
Il y a 40 000 Américains qui sont
venus. Ouais, oh là là. On devient un pays du tiers-monde, c'est horrible. Bon, voilà, on va essayer de, de rester calme.
Non, maintenant, on sait que... Soyons positifs, on sait que l'aventure européenne est un désastre, qu'elle est en train de se terminer dans un désastre économique, financier, diplomatique, tout ce que vous voulez. Et donc maintenant, il faut se mettre d'accord pour reprendre les souverainetés françaises et essayer de rebâtir ce pays. Mais en tout cas, on sait que la voie de l'Europe, c'est mort. C'est foutu. C'est perdu. Ça y est. C'est la guerre en Ukraine qui nous l'a fait. Et c'est peut-être une bonne chose d'ailleurs pour nous.
C'est peut-être une bonne chose. Je pense que l'avenir nous le dira.
L'avenir nous le dira.
En tout cas, il y a peut-être peu de chances que ce soit une mauvaise chose. Voilà. Cette émission se termine là-dessus. Encore une fois, je vous remercie pour votre attention. Encore une fois, nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux, sur Twitter, enfin sur X, sur Facebook, sur TikTok, bien évidemment sur YouTube. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un pouce en l'air et mettre un commentaire. Ça aide au référencement de nos vidéos sur les pages YouTube de tout le monde. Vous pouvez aussi partager la vidéo dans vos groupes de famille ou à votre voisin si jamais vous l'aimez pas.
Vous pouvez nous envoyer des questions.
Voilà. Vous pouvez nous envoyer des questions dans les commentaires. En général, je les lis. Ces émissions elles sont disponibles en format podcast sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast. Par rapport à l'Université de l'Épargne, ça arrive. C'est en imminence. Restez.
On bosse. Hein.
Voilà, on bosse. On bosse beaucoup.
Alors, on va demander votre indulgence parce qu'il va y avoir beaucoup de ratés. Hein. Au départ, on va se planter. On va pas se mettre dans le bon ordre. Mais on y arrivera. On y arrivera.
C'est le problème.
Il va falloir réfugier des plâtres.
On travaille beaucoup et parfois, en fait, peut-être pour pas grand chose, mais on va avoir des retours clients et puis on s'ajustera en fonction de ça. Et forcément, le produit sera pas tout à fait fini et puis on aura une production.
Mais il sera jamais fini parce qu'au fur et à mesure que vous nous poserez des questions, on le changera. Donc, si vous voulez, c'est un truc qui est en devenir. C'est pas un truc qui est. On va pas sortir un bouquin, puis on vous le donnera, vous le lirez, et puis ensuite on vous fera des exercices. Ouais. Ce sera quelque chose qui sera. On espère qu'il y aura des retours de vous vers nous.
Bien sûr.
Et ça va être très intéressant de voir ça. Ça va être une université en construction.
Voilà, c'est sûr. Toujours. Parce que forcément, on va peut-être vous parler de trucs dont vous vous en foutez. Et puis ensuite, peut-être qu'on parlera pas de trucs dont vous voulez qu'on parle.
Vous les réclamez.
Donc vous nous les réclamerez, et puis à ce moment-là, on avisera. Et le produit sera de plus en plus perfectionné au fur et à mesure. Donc voilà, je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt sur l'Institut des Libertés.
Merci beaucoup.
Encore.